Un journal présenté ce soir par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tous. Emmanuel Macron à la télévision ce soir pour inciter les Français à une plus grande vigilance face à l'épidémie, peut-être aussi pour annoncer de nouvelles mesures visant à limiter la propagation du coronavirus. Le chef de l'État joue sa crédibilité, nous dira l'expert en communication Philippe Moreau-Chevrolet. En Allemagne, Angela Merkel veut imposer de nouvelles restrictions, dont une obligation élargie du port du masque. La chancelière vient de négocier un accord avec les dirigeants des 16 régions allemandes. Les dirigeants des 5 principaux syndicats français réclament à Jean Castex une réunion d'urgence. Alors que la crise sanitaire s'éternise, ils demandent une reconnaissance effective du rôle essentiel des salariés de deuxième ligne. Nous détaillerons leurs revendications avec Catherine Pétillon. Le président turc souffle le chaud et le froid dans l'est de la Méditerranée. Alors que des pourparlers semblaient se profiler entre Ankara et Athènes, Recep Tayyip Erdogan reprend un ton menaçant et renvoie un navire de recherche gazier dans des eaux revendiquées par la Grèce. Nous verrons pourquoi avec notre correspondante Anne Andlauer. L'épidémie de coronavirus a fait près de 33 000 morts en France en 7 mois. Plus de 1630 personnes touchées par le Covid-19 se trouvent actuellement dans les services de réanimation. Et notre système de santé se trouve de nouveau mis à l'épreuve. Face à cette deuxième vague, les soignants espèrent à l'annonce de nouvelles mesures contraignantes. Encore faudrait-il qu'elles soient comprises et acceptées par la population, ce qui n'est pas acquis dans un contexte de forte méfiance vis-à-vis de l'exécutif. C'est donc à un exercice risqué qu'Emmanuel Macron va se livrer ce soir. Et le président a décidé de changer son mode de communication. Pas de discours solennel, mais un entretien télévisé, un dialogue avec deux journalistes. S'il veut espérer être entendu, le chef de l'État doit se montrer proche des Français et faire des annonces fortes, explique Philippe Moreau-Chevrolet, expert en communication.
Le chef de l'État sort de son cadre, puisque jusqu'à présent, Emmanuel Macron a surtout communiqué par message enregistré sur la crise, qui était un peu étrange parce que ça produisait toujours un décalage. Il n'y avait pas non plus la tension qu'on peut avoir avec du direct. Visiblement, il n'a pas choisi la même forme aujourd'hui. Il ne veut pas être dans la solennité, mais peut-être plus dans l'explication et dans un échange avec le public, finalement, par l'intermédiaire des journalistes. Il y aura des questions qui seront posées, il y aura une forme de dialogue. Et c'est sans doute ça qu'il veut travailler, un peu comme Édouard Philippe l'avait fait pendant la première vague. L'idée, c'est de faire de la pédagogie, mais surtout de se mettre, je pense, au niveau des gens, c'est-à-dire de descendre un petit peu de l'Olympe dans lequel il était jusqu'à présent, pour vraiment montrer qu'il est opérationnel, qu'il est dans la gestion de la crise, et qu'il n'est pas dans un déni de la crise sanitaire ou éloigné de la crise sanitaire. Je pense que c'est surtout la volonté de montrer qu'il est un acteur, et pas seulement un commentateur, ou quelqu'un qui va ponctuellement faire des grands discours.
Est-ce qu'il y a l'idée aussi de dédramatiser les annonces qui vont être faites ce soir ?
Alors la forme de l'interview permet de banaliser un peu, effectivement, de dédramatiser les annonces qui pourraient être faites. Maintenant, si le discours n'a pas de contenu, si on est purement dans de la rhétorique, aussi rassurante soit-elle, le rendez-vous sera manqué et il peut jouer une partie de sa réélection sur ce type d'échec. Donc il a intérêt à avoir une forme qui est peut-être effectivement plus proche des gens, plus vivante, mais le fond doit être structuré. On doit sentir qu'il y a une stratégie, on doit sentir qu'il y a une volonté d'aller quelque part et que les mesures annoncées vont être efficaces.
Philippe Moreau-Chevrolet répondait à Antoine Marette. Elle avait relativement bien résisté à la première vague de Covid-19 au printemps. La République tchèque avait ensuite levé la plupart des mesures de restriction et depuis le mois d'août, elle connaît une hausse des contaminations. C'est même, sur ces deux dernières semaines, la hausse la plus rapide au sein de l'Union européenne. Le gouvernement tchèque a donc ordonné, à partir d'aujourd'hui, la fermeture de tous les bars et restaurants du pays et la fermeture des écoles et des institutions culturelles. Le reportage d'Alexis Rosenzweig à Prague.
Quelques tramways assez vides et des rues peu animées. La capitale tchèque est plutôt morose en ce premier jour pluvieux de reconfinement partiel. Les clients ne peuvent plus rentrer dans les restaurants et doivent passer commande par la fenêtre pour tenter de faire baisser le nombre de nouvelles contaminations. Le gouvernement tchèque a ordonné une fermeture de 3 semaines. Anna Marie ronge son frein en nettoyant le mobilier de son bar-restaurant qu'elle a ouvert il y a 3 ans.
Ils ont décrété qu'il fallait fermer, mais personne n'est capable de nous dire comment ne pas licencier nos employés et éviter la faillite ou la saisie par des huissiers.
Les aides proposées jusqu'ici par le gouvernement, comme le chômage partiel ou les subventions au loyer, ne suffisent pas à maintenir l'équilibre financier. Et beaucoup de restaurateurs pragois comme elle ne voient pas vraiment le bout du tunnel.
Je suis agacée parce qu'au lieu de se préparer à une deuxième vague et de renforcer le système hospitalier, les autorités vont maintenant nous verser des aides qui ne couvriront pas la moitié de nos besoins. Tout cela me semble irrationnel et illogique.
Pour moi, en ce moment, il y a plus de travail. C'est plutôt bien, même si c'est dur sous la pluie, raconte Marek, livreur à vélo à l'heure du déjeuner et du dîner, et étudiant le reste du temps, enfin étudiant en ligne seulement, car les universités, comme toutes les écoles du pays à partir du primaire, sont désormais fermées.
Alexis Rosenzweig. De nouvelles restrictions vont aussi être mises en place en Allemagne pour freiner l'épidémie. Bonsoir Nathalie Versieux.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Berlin, Nathalie. La chancelière Angela Merkel rencontrait cet après-midi les ministres présidents des Länder, des régions allemandes, pour se mettre d'accord sur un nouveau catalogue de ripostes.
Oui, et la réunion qui, pour la première fois depuis mars, se tient à la chancellerie et non sur le net, s'éternise. La conférence de presse de 17h30 n'a toujours pas débuté. Les positions de départ étaient en effet très divergentes entre les tenants d'une ligne stricte, comme la Bavière et le Mecklembourg-Poméranie, et ceux d'une ligne plus permissive, notamment la Rhénanie et la Saxe. Angela Merkel, forte d'une popularité au zénith, conserve son rôle de médiatrice, très loin de la posture adoptée par le président français. Jusqu'à présent, elle a laissé aux Länder le soin de gérer la crise. Elle veut désormais ramener un peu d'ordre dans la cacophonie actuelle, inquiète à l'idée que l'éparpillement des mesures adoptées ne mène à une lassitude de l'opinion. L'idée est d'étendre l'obligation du port du masque, d'adopter un catalogue de pénalités harmonisé pour les contrevenants, de limiter la vente et la consommation d'alcool en soirée, le tout dès que le seuil de 35 nouvelles contaminations pour 100 000 habitants sera atteint sur une semaine au lieu de 50 à l'heure actuelle. Le rythme de diffusion du Covid s'accélère dans le pays avec 5 000 nouveaux cas déclarés aujourd'hui et 43 morts après de 10 000 décès dans le pays.
Merci Nathalie Versieux en direct de Berlin. Depuis le début de la pandémie, les gouvernements ont injecté plus de 12 000 milliards d'euros dans l'économie, mais cet argent pourrait être mieux employé, estime le FMI. Dans un rapport sur la surveillance budgétaire publié aujourd'hui, le Fonds monétaire international recommande au gouvernement d'augmenter les impôts des familles et des entreprises les plus riches, Marie Vienno.
Ce n'est pas la première fois que le FMI émet des recommandations qui peuvent paraître détonnantes. Autrefois concentré sur la réduction des impôts, le FMI s'attache dorénavant à vouloir réduire les inégalités de revenus. Or, la pandémie les a à nouveau accentuées. Déjà en avril, le FMI avait recommandé au gouvernement d'envisager la mise en place de taxes sur la richesse pour aider ceux et celles qui avaient perdu leur emploi. Il réitère ce conseil aujourd'hui en ajoutant que l'argent ainsi récolté pourrait financer la santé et les filets de protection sociale, car cette crise, je cite, « touche de manière disproportionnée les plus pauvres de la société ». Les autorités françaises, qui ont fait de la non-augmentation des impôts, y compris pour les plus aisés, une règle d'or, peuvent se sentir concernées, mais cette recommandation du FMI s'adresse davantage aux pays pauvres ou en développement qui n'arrivent pas à lever de la dette et ont dû limiter leurs dépenses sociales pour faire face aux dépenses liées à la pandémie. Autre moyen de lever des recettes, selon le FMI, surtaxer les entreprises très bénéficiaires sans que ce concept ne soit détaillé. Plus précises, en revanche, sont les recommandations au gouvernement dans leur politique d'aide aux entreprises. Il faut maintenir ce soutien, dit l'institution, mais il faut devenir plus sélectif et transférer progressivement ces aides de la protection des vieux emplois, je cite, à la formation à de nouvelles compétences pour les emplois de demain.
En France, les 5 organisations syndicales représentatives s'adressent ensemble à Jean Castex. Dans ce contexte de rebond de l'épidémie, les syndicats veulent aborder différents sujets, à commencer par la qualité du dialogue social. CFDT, CGT, FO, CFE-CGC et CFTC ont écrit au Premier ministre pour lui demander une réunion d'urgence, Catherine Pétillon.
Un courrier signé de l'ensemble des syndicats, le geste lui-même est assez rare pour être souligné. Et cela d'autant plus qu'il exprime de manière claire un mécontentement unanime face aux réponses à la crise économique et sociale, autrement dit aux conséquences du Covid pour l'emploi, les salaires et les conditions de vie d'une partie importante de la population, les jeunes en particulier. Les centrales réclament, je cite, que le dialogue social se traduise par une écoute et une réponse effective de la part des pouvoirs publics. Depuis cet été, les concertations et rendez-vous se multiplient à Matignon ou au ministère du Travail, mais s'ils sont beaucoup consultés, les syndicats semblent de fait peu écoutés. Dans leur courrier, ils estiment leur capacité d'initiative entravée par des restrictions importantes, notamment sur le droit de réunion et de manifestation. Ils réclament aussi une évaluation des conséquences des ordonnances travail de 2017 afin, je cite, de rétablir les droits de représentation collective des salariés à la hauteur des enjeux actuels. Autre exigence formulée par les syndicats, l'instauration de contreparties aux aides aux entreprises, notamment en matière d'emploi. Le plan de relance ne fixe aucune obligation légale et le Premier ministre n'a pour l'heure évoqué que l'hypothèse d'un simple droit de regard des instances sociales sur ces aides. Les syndicats réclament, eux, que de véritables engagements soient exigés en contrepartie et leur mise en œuvre contrôlée. Enfin, ils réitèrent l'une de leurs revendications depuis des mois, l'abandon pur et simple de la réforme de l'assurance chômage, à ce stade reportée à janvier prochain, et le retour aux mesures antérieures à la réforme de 2017, c'est-à-dire renoncer au durcissement des conditions d'accès et des niveaux d'indemnisation de l'assurance chômage.
Catherine Pétillon, compte tenu du contexte sanitaire, les stages 3e en entreprise seront facultatifs cette année. Le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, l'a annoncé devant les sénateurs. Les contraintes liées à l'épidémie et le recours au télétravail font que beaucoup d'élèves voyaient leurs demandes rejetées. Ces stages seront donc remplacés par des modules vidéo, des formations sur le monde du travail et sur l'orientation.
Tôt ce matin, c'est un coup de téléphone qui a réveillé Terrence, le secrétaire.
Alors, on y vient, justement. Plus de 150 mesures pour lutter contre les violences faites aux personnes lesbiennes, bisexuelles, gays et transgenres. Présentées ce matin par la ministre de la Diversité, Elisabeth Moreno, ce plan contre la haine anti-LGBT vise d'abord à améliorer la prise en charge des victimes avec le développement d'un réseau de référents spécialisés dans les commissariats, les gendarmeries et les tribunaux. La sensibilisation va notamment être renforcée dans l'éducation nationale. Ces mesures étaient très attendues par les associations Victor Vasseur.
Tôt ce matin, c'est un coup de téléphone qui a réveillé Terrence, le secrétaire général de l'association Stop Homophobie.
Il y a une personne trans qui a été agressée à la sortie du métro par deux jeunes. Elle a reçu un coup de trottinette.
Et cet après-midi, Terrence a donc rencontré cette femme pour l'inciter à porter plainte.
Et on lui a dit, regarde, tu t'habilles en femme. Donc ouais, elle a tout de suite compris, alors qu'elle est trans, elle est une femme. Elle s'habille pas en femme, donc. Mais il y a personne qui a voulu la défendre.
L'association est joignable tous les jours, 24 heures sur 24. Elle écoute les victimes, les soutient après une agression. Elle sera aussi partie civile au tribunal pour assister Arnaud, ce jeune homme de 29 ans, agressé en plein Paris.
Il y a deux ans pile poil, c'était en septembre 2018, je me suis fait agresser avec mon compagnon à la sortie d'un théâtre par un groupe de six mineurs qui nous ont insultés pendant une dizaine de minutes, puis tabassés.
Des coups de pied, des coups de poing, des coups de casque. Ces agresseurs avaient entre 12 et 16 ans, des adolescents. Et justement, la ministre Elisabeth Moreno veut créer un site internet. Son objectif, donner aux enseignants des armes pour combattre à l'école l'homophobie et la transphobie. Une mesure qui a du sens, estime Arnaud.
On voit très bien dans leurs propos et lors de l'agression, moi je m'en suis vraiment rendu compte, ils agressaient quelque chose qu'ils trouvaient bizarre en fait. C'était, on ne connaît pas, c'est inconnu, ça nous fait peur concrètement et donc on insulte et on frappe.
Et pour Arnaud, il faut même aller plus loin à l'école, jusqu'à insérer les luttes LGBT dans les programmes scolaires.
On parle des luttes contre le racisme. Tous les enfants en France, tous les adolescents en France savent qui est Martin Luther King, savent qui est Gandhi, savent qui est Nelson Mandela. Mais si vous allez dans un lycée aujourd'hui et que vous leur demandez qui est Harvey Milk, qui est Lily Elbe, qui est la première femme transgenre, ils ne le savent pas. Et en fait, il faut juste leur enseigner ça.
Arnaud qui va donc témoigner sur son temps libre dans des lycées comme hier, en Eure-et-Loir, à 2 heures de route de Paris. À la demande non pas de la direction ni des professeurs, mais ce sont 3 lycéennes qui l'ont contacté.
Victor Vasseur. Au procès des attentats de janvier 2015, l'audition aujourd'hui de Mohamed Amin Fares. Il est poursuivi pour association de malfaiteurs terroristes, accusé d'avoir fourni des armes à Hamidi Koulibaly, le terroriste de Montrouge et de l'Hypercacher. Mohamed Amin Fares a été arrêté longtemps après les attentats, dénoncé par une lettre anonyme, Florence Turm.
Le 27 décembre 2017, près de 3 ans après les attentats, la juge d'instruction reçoit une lettre anonyme qui mentionne un lien entre Mohamed Fares et l'Hypercacher. Lui ne connaît pas Hamidi Koulibaly, seulement 2 autres des accusés soupçonnés d'avoir contribué à fournir des armes, aucune trace de son ADN sur une quelconque pièce à conviction. En revanche, on va retrouver celui de son ancienne belle-sœur sur un pistolet Tokarev abandonné dans l'appartement de Gentilly. A-t-il une idée de l'auteur de cette lettre? Quelqu'un qui veut me faire porter le chapeau, répond l'accusé, plutôt économe de mots, cheveux noirs tirés en catogan. L'audience plonge alors dans les méandres complexes de son ancienne belle-famille. Son épouse religieuse et mère de sa fille, une belle-sœur pas très respectable selon son expression, toutes deux citées mais pas décidées à venir témoigner. La cour a délivré un mandat d'amener pour les y obliger. Et puis le petit frère Souliman, mineur au moment des faits, également renvoyé dans ce dossier, mais qui a disparu dans la nature. Lors d'une confrontation, il expliquera avoir eu l'arme en sa possession tout en affirmant que Mohamed Fares lui a demandé qu'il la lui rende pour des clients parisiens. Mohamed Fares, lui, livre quantité de versions différentes, mensonges avérés, y compris sur des détails insignifiants, souligne le président. L'accusé hausse les épaules jusqu'à ce que sa propre avocate décide de le pousser dans ses retranchements. Comment se passait votre mariage ? Au début bien, mais ça s'est dégradé, j'étais infidèle, je buvais. Mais encore, il baisse la tête, j'ai été violent avec elle, admet-il du bout des lèvres. J'ai honte de ce que j'ai fait à l'époque. Maître Safia Akori n'en a pas fini. Et Souliman vous a vu frapper sa sœur, lance-t-elle sur le même ton offensif. Oui, il m'a vu, lâche péniblement Mohamed Fares. Le courrier anonyme, précise son avocate, venait bien de la région de Lille où la famille résidait.
Florence Thurm, dont vous pouvez suivre les chroniques judiciaires sur franceculture.fr. Il avait prêté allégeance à l'État islamique et attaqué un policier au marteau devant Notre-Dame de Paris en 2017. Farid Iken est condamné à 28 ans de prison. La Turquie donnera à la Grèce la leçon qu'elle mérite en Méditerranée orientale. Déclaration du président Recep Tayyip Erdogan deux jours après le déploiement par Ankara d'un navire de recherche d'hydrocarbures dans des eaux revendiquées par Athènes. Alors qu'un apaisement semblait se profiler après des semaines de tensions entre les deux voisins, les dernières actions et déclarations de la Turquie mettent à mal les espoirs d'une solution négociée à Nandlower.
Recep Tayyip Erdogan n'en finit pas de souffler le chaud et le froid dans l'est de la Méditerranée. Le mois dernier, le président turc avait multiplié les gestes de bonne volonté. Disant vouloir laisser une chance à la diplomatie, il ramène au port un navire de recherche gazière déployé dans des zones où la Grèce se déclare souveraine. Ankara et Athènes s'étaient même mis d'accord pour reprendre des négociations interrompues en 2016 au sujet de leurs différends en Méditerranée. Mais alors que tout le monde guettait l'annonce d'une date et d'un lieu pour ces pourparlers, le chef de l'État turc décide finalement de faire marche arrière, de rediriger son bateau vers les zones contestées et de reprendre un ton menaçant. Les responsables turcs avancent deux grandes raisons pour justifier cette volte-face. Ils affirment que la Grèce, tout en se disant prête au dialogue, refuse d'emblée de négocier sur la plupart des points de discorde, campant sur ce qu'Ankara appelle des positions maximalistes. Ils expliquent par ailleurs que l'issue du dernier sommet des dirigeants européens les a beaucoup déçus. Début octobre, l'Union européenne avait adopté une double approche vis-à-vis d'Ankara, promettre d'améliorer la relation turco-européenne à condition que la Turquie cesse ses provocations dans les eaux grecques et chypriotes, en agitant en cas d'échec la menace de sanctions. Sanctions, un mot que Recep Tayyip Erdogan et son régime ne supportent pas. S'il maintient le ton et les actions des derniers jours, le président turc pourrait toutefois s'y exposer dès le mois de décembre, quand les 27 referont le point sur le dossier.
À Nandlower, à Istanbul. On craint de plus en plus une escalade du conflit dans le Haut-Karabakh. Non seulement le cessez-le-feu n'est toujours pas respecté, mais l'Azerbaïdjan a annoncé avoir frappé des sites de lancement de missiles sur le territoire arménien. Une réponse, d'après Bakou, aux attaques arméniennes contre des zones civiles en Azerbaïdjan. Erevan dément. Et maintenant, nous allons à Rome, où a débuté ce matin un procès voulu par le pape lui-même. Le procès d'un jeune prêtre et de son supérieur de l'époque. Le premier est accusé d'avoir abusé sexuellement d'au moins un mineur et le deuxième de l'avoir couvert. Les faits se sont déroulés dans les murs même du Vatican, dans le pré-séminaire qui prépare les servants de messe. Bonsoir Bruce de Galzin.
Bonsoir.
Le procès a débuté ce matin au tribunal du Vatican, Bruce.
Eh oui, dans le petit état du Vatican, il y a bien sûr un tribunal et un promoteur de justice qui, ce matin, a lu l'acte d'accusation. Les mots sont crus, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le jeune prêtre mineur à l'époque est accusé de viol, notamment répété pendant 5 ans entre 2007 et 2012. Il n'y a qu'une victime, même si d'autres ont témoigné dans divers médias. Tout s'est passé dans le seul séminaire du Vatican, qui prépare en fait les enfants de cœur du pape, les servants de messe de la basilique Saint-Pierre. Dans ce pré-séminaire, censé permettre à certains jeunes de savoir s'ils veulent devenir prêtres, il y avait un recteur qui, lui, est accusé de complicité car il a couvert son protégé. Il a même falsifié la lettre à en-tête d'un évêque pour annoncer l'imminence de l'ordination sacerdotale du jeune séminariste. Il le couvrait une nouvelle fois. C'est le Vatican, par la volonté du pape, qui a décidé d'ouvrir une enquête il y a 3 ans. Mais ce matin, l'audience n'a duré qu'une dizaine de minutes, puis a été renvoyée au 27 octobre en raison, je cite, « des engagements de cette cour pour une affaire déjà avancée ». Et en effet, il n'y a qu'un seul tribunal au Vatican et beaucoup de procès en ce moment, notamment pour des scandales financiers.
Bruce de Calza en direct de Rome. Demain jeudi, le temps sera souvent maussade. Les températures seront fraîches le matin entre 4 et 12 degrés. L'après-midi, il fera de 9 à 15 degrés, 15 à 18 dans le sud-est. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.